Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bienvenue à cette quatrième séance de notre cours intitulé cette année 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Quatrième cours qui s'intitule aujourd'hui Droit et morale et qui va nous plonger dans des questions juridiques. Alors il faudra s'accrocher aujourd'hui, il y a beaucoup de textes, je promets, c'est la dernière. Ensuite, on s'émancipera de ces textes, mais aujourd'hui, je vous demande de l'endurance et de l'attention pour traverser cette question qui est évidemment centrale dans les questions de spoliation et de restitution jusqu'à l'heure actuelle. Un résumé rapide des épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas assisté à toutes les séances, et je sais que certains parmi vous n'ont pas assisté aux séances précédentes. Nous avons eu trois séances qui nous ont familiarisés avec le contexte parisien des années 1814-1815 et avec la problématique en général. Les trois premières séances s'intitulaient, donc après l'introduction, « Reprendre » et « À chacun son universel ». Nous sommes partis du XXe siècle, avons constaté l'actualité du sujet au milieu du XXe siècle, du sujet 1815 pour les intellectuels du milieu du XXe siècle, avec Aragon et Cocteau qui nous ont permis d'ouvrir ce cours. Puis nous avons constaté la polyphonie des voix qui, en Europe, s'étaient impliquées dans cette question autour de 1814-1815, de Goethe à Stendhal, à Denon, aux frères Grimm, etc., pour en tirer la conséquence que lorsque nous travaillons aujourd'hui en tant qu'historienne ou historien sur ces questions, il est bon de tenter d'adopter une multiperspectivité, de tirer les sources non pas seulement françaises, mais aussi de l'extérieur de la France, les sources européennes, pour donner tout son volume à ce sujet qui a été un sujet éminemment européen, si ce n'est mondial. Donc, actualité, polyphonie, multiperspectivité, c'était les trois grandes colonnes des deux premiers cours. Et puis, au troisième cours, intitulé « Reprendre », nous nous sommes familiarisés avec la chronologie des événements, avec ces deux moments de reprise des œuvres d'art à Paris, avant et après les 100 jours. Lors du dernier cours, qui s'intitulait « À chacun son universel », nous avons posé la question du terme même de musée universel. Nous avons constaté que c'était plutôt une invention du début du XXIe siècle, de notre siècle, mais que ça ne voulait pas dire qu'autour de 1800, le terme d'universalité n'avait pas été utilisé. Nous avons constaté que précisément autour de 1814-1815, quand les troupes alliées, donc les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, les Allemands plus généralement, et les Britanniques étaient à Paris, on avait une grande discussion sur la légitimité et sur la portée de musées de ce type, de musées publics ouverts à tous et qui réunissent tout ce qu'on considérait alors comme l'art du monde ou l'art européen. L'objet qui nous a accompagnés lors de la dernière séance était cette aquarelle qui représente des Cosaques russes, venus avec l'armée russe, avec le tsar à Paris, qui en 1814 contemple ici, sur cette aquarelle de Opitz, l'Apollon du Belvédère, venu quelques années plus tôt de Rome, des collections pontificales. Et on avait donc constaté que ce lieu était un lieu, le musée du Louvre, un musée pour tout le monde, et que les alliés qui se retrouvaient à Paris en 1814 profitaient de ce lieu. Nous avons fait ce constat dans différents types de sources, dans toutes les langues, et nous en sommes arrivés à trois conclusions. D'abord, que les débats ne relèvent pas d'un particularisme, c'est-à-dire les Russes qui voudraient récupérer l'art russe, les Britanniques qui voudraient récupérer des choses britanniques, ce qui n'entre d'ailleurs pas en compte, puisque ces espaces géographiques n'avaient pas été touchés par les saisies. Donc pas d'un particularisme national, mais plutôt d'un conflit des universalités, donc de différents concepts de ce que peut être un musée universel. Donc que le musée lui-même n'est pas remis en cause, mais que lors de ces débats sont mises en évidence les contradictions liées à ce musée, et en particulier la contradiction liée au fait que des objets uniques, qui ne peuvent être qu'en un lieu, doivent appartenir, selon l'idée de ce musée universel, à tout le monde. Ce qui pose la question de leur lieu, de leur accessibilité. Et nous avons vu que, devant le démembrement du Louvre, certaines voix s'élevaient pour proposer d'autres concepts de musée universel, ce qu'on a appelé des universels au pluriel. Juste rapidement, on aime le musée mais pas au prix des spoliations. C'était l'une des conclusions à laquelle on arriva en étudiant les sources, avec notamment cette jeune femme qui considère que, et son père venu de Brunswick, qui considère que le musée est le lieu le plus confortable et le plus beau qu'il n'ait jamais vu, mais que s'il faut payer le prix des spoliations, c'est trop cher payé pour avoir un si beau musée. Nous avions constaté que se posait la question, notamment chez cet auteur britannique, ce lieutenant britannique, s'il fallait désormais en Europe réunir les plus belles peintures dans une seule galerie ou les redistribuer selon leur origine et leur destination, avec la question donc, du lieu du musée. Oui à l'idée de grand musée, mais non à l'idée d'un seul musée central à Paris. Et puis nous avions vu, avec un clin d'œil, que les Parisiens, face au démembrement du Louvre, proposaient même, certains, notamment cet historien de l'art, Gaud de Saint-Germain, qu'on montre désormais au musée du Louvre seulement l'école française qui n'en rendra le musée que plus varié et peut-être plus éclatant, disait-il, nos richesses éparses, c'est-à-dire dans tout Paris et dans la France, surtout en sculpture, les richesses françaises, ne sont bien connues que des savants rassemblés au muséum, elles étonneront l'univers. Donc ce serait un universalisme qui partirait d'une école nationale, entre guillemets. On reviendra sur ces questions quand on parlera plus profondément, plus précisément, de l'Italie. Et j'ajoute à ce résumé une source qui va faire le pont avec ce dont nous allons parler aujourd'hui, une source tirée d'un opuscule très important, sur lequel nous allons rester un petit moment aujourd'hui, qui s'intitule « Les observations d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre du Muséum de Paris » en réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Castlereagh sous la date du 25 septembre 1815, et publié le 18 octobre dans le Journal des débats, et puis republié sous forme de petite brochure par M. Hippolyte Trois Étoiles, trois petites étoiles, donc c'est un ouvrage anonyme. L'auteur s'appelle Hippolyte Mazier du Haume. Il est pratiquement inconnu. Donc c'est presque un anonyme, mais c'est un texte extrêmement intéressant, y compris parce que c'est un texte qui vient du bas, ou en tout cas d'une personnalité non exposée, vous le verrez. Et celui-ci écrit donc dans cet opuscule, je me permets de lire l'ensemble de la citation qui est très intéressante, « Mais quelle perte pour les arts !» au moment du démembrement du musée Napoléon. « Réunis sur un même point dans le palais le plus magnifique de l'univers, le Louvre, ces tableaux, ces vases, ces statues, ces bas-reliefs offraient l'assemblage unique des talents de tous les âges et de tous les peuples polissés. Facilement et sans frais, toutes les nations voisines pouvaient admirer et étudier ces chefs-d'œuvre immortels, puisque la France se trouve, par son heureuse position, presque placée au centre de l'Europe. Épars et désunis, disséminés dans les différentes monarchies, produiront-ils le même effet, les mêmes avantages lorsqu'ils ne pourront plus subir l'épreuve de la comparaison ? Séparés peut-être du continent par la mer, il agite ici la crainte que les Anglais s'approprient tout ça, séparés peut-être du continent par la mer, transportés au milieu des brouillards éternels de l'Angleterre, dans une atmosphère toujours humide et toujours nébuleuse, se conserveront-ils sans altération, comme sous le ciel pur de notre belle France ? Pourront-ils, hélas, servir de modèle lorsque, pour les consulter, il faudra traverser l'océan et braver les tempêtes ? On voit ici, alors vraiment, on est au cœur d'une discussion ici exagérée, hein, pratiquement caricaturale, vous avez ri, c'est un très bon signe. On voit combien cet universalisme à la française est aussi un universalisme très égocentré et qui ne se rend pratiquement pas compte, pour exagérer un peu, de son ridicule. En tout cas, cette question du lieu de l'universalisme et du retour des œuvres va occuper considérablement les esprits. Et nous allons rester en compagnie de cet Hippolyte. Aujourd'hui, vous verrez qu'il a d'autres idées intéressantes sur la question et des formulations qui nous permettent de comprendre, parce qu'elles sont un petit peu exagérées, de bien saisir ces événements qui ont 200 ans d'âge, ces discours, mais qui nous sont en fait très familiers. Et quand on les trouve sous cette forme un petit peu surlignée, comme ça, c'est extrêmement pratique pour comprendre les enjeux. Quatrième cours, donc, droit et morale, avec les questions juridiques liées à notre sujet des restitutions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre dernière séance à Paris. Jusqu'à maintenant, on s'est occupé de la chronologie militaire des événements, du lien entre les arts et les armes. On s'est occupé des discours suscités par la présence des alliés à Paris en 1814-1815, donc on était toujours à Paris. Et là encore, on va regarder les discussions juridiques, mais plutôt d'un point de vue parisien, même si d'autres voix se mêlent au chapitre. Et puis à partir de la prochaine fois, on sort, hein, je vous l'avais annoncé déjà, et on va suivre les œuvres dans les différents pays où elles retournent. On va ouvrir notre horizon, mais pour le moment, il fallait vraiment qu'on ait ce socle bien solide. Donc, dernière séance parisienne et juridique. Je m'appuie, alors ce n'est pas lisible ici, je m'appuie pour cette séance, en plus des ouvrages que j'ai déjà nommés, sur un article extrêmement intéressant, et plus généralement sur les travaux de Xavier Perrault, qui est professeur d'histoire du droit et des institutions à l'Université de Limoges, et en particulier sur cet article-ci qui s'intitule « La restitution des œuvres d'art en 1815, vue par la doctrine internationaliste du XIXe siècle, la victoire du moralisme sur le légalisme ». Vous verrez de quoi il est question. Et plus généralement, je peux faire vous inviter à consulter la thèse de doctorat de Xavier Perrault intitulée « La restitution internationale des biens culturels au XIXe et XXe siècle, espace d'origine, intégrité et droit », thèse publiée sur le site Archives ouvertes HAL, qui est accessible donc en ligne. Dans cet article sur le mouvement légaliste ou sur les discussions juridiques liées à la question des restitutions, Xavier Perrault constate dès l'introduction « L'histoire du mouvement international de restitution des œuvres d'art qui a eu lieu à partir de 1815 en France et certains États européens est aujourd'hui assez bien connue. » Et la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, maintenant, après les séances que nous avons eues, la connaissons aussi assez bien. C'est pour ça que c'est seulement maintenant qu'on plonge dans ces questions juridiques. Ce qu'il est peut-être moins, c'est le traitement qu'en fait la doctrine juridique internationaliste durant le dernier quart du XIXe siècle. Deux courants s'affrontent, celui des opposants aux restitutions, essentiellement légalistes, et celui des partisans des restitutions, davantage moralistes. Alors vous voyez que Xavier Perrault, ce qu'il fait, c'est qu'il va observer à la fin du XIXe siècle comment ce qui s'est passé au début du XIXe siècle continue d'occuper les juristes. Et à partir de ces réflexions, ce que j'ai fait moi, c'est que je suis retournée en arrière et j'ai regardé comment ce qui est discuté à la fin du XIXe siècle l'avait déjà été autour de 1800, et c'est le projet que nous avons donc aujourd'hui. J'ai articulé le cours en trois volets, comme toujours, et en suivant la proposition de mon collègue historien du droit, donc Xavier Perrault, en prenant une première partie qui sera consacrée aux opposants des restitutions, aux arguments juridiques qui s'opposent aux restitutions, donc aux côtés de ce qu'il appelle les légalistes. Une deuxième partie qui va s'intituler, vous verrez pourquoi on en a besoin au milieu, l'origine juridique des œuvres, j'aurais pu l'appeler aussi la provenance juridique, non pas géographique, mais juridique, des œuvres. Vous verrez tout à l'heure de quoi il est question. Et troisièmement, les partisans des restitutions, c'est-à-dire ce que Xavier Perrault appelle les moralistes. Et pour commencer, comme toujours, on présente l'objet du jour, ou je présente l'objet du jour, qui est en fait deux objets du jour qui étaient déjà en exergue de ce cours, c'est-à-dire le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les traités et conventions signés dans la même ville le 20 novembre 1815, donc un texte juridique, ce n'est pas exactement un objet, c'est un texte en fait, mais puisque je tente toujours dans ce cours de donner aussi une matérialité, y compris au texte qu'on utilise, je vous montre l'autre objet qui va nous accompagner, du moins au début, l'acte final du congrès de Vienne, qui dans toute sa matérialité nous montre l'importance de ce document pour la reconstruction de l'Europe, pour la reconfiguration, le nouveau départ de l'Europe, basé sur des projets nationaux à partir de 1815. Vous voyez donc un très grand document, un grand volume relié, richement relié, et puis sur la dernière page, les sceaux des différents signataires de cet acte. On lit ici, par exemple, quelque part, le baron de Humboldt, pour la Prusse, Guillaume de Humboldt, dont il a déjà été question. Ce type d'objet est conservé dans les parties muséales des archives, y compris à Paris, aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais aussi à Vienne, dans les archives de Prusse, etc. Chaque partie en a une. Alors, en prenant le traité de paix de mai 1814 et l'acte du traité de Vienne en 1815, on est dans notre, vous vous souvenez de notre cadre chronologique, on est à la fin du premier moment, avant les 100 jours, enfin, on est dans le premier moment, avant les 100 jours, et dans le second moment de nos histoires de restitution, après les 100 jours. C'est le cadre juridique qui accompagne le double départ de Napoléon. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans le premier traité de 1814, c'est qu'il faut attendre l'article 31 sur 33 articles en tout pour trouver quelque chose qui ressemblerait à notre question. Je vous lis, article 31, les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant au pays cédé ou concernant leur administration seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de 6 mois après la remise des pays mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches, qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. Il n'est pas question d'œuvres d'art, il n'est pas question de bibliothèque, il est ici seulement question des archives, c'est extrêmement significatif. Le déplacement d'archives, l'appropriation d'archives par les puissances victorieuses ayant une longue tradition, y compris juridique, ce qui explique sa présence ici et sa présence exclusive. Il faut rappeler dans ce contexte, et je ne l'ai pas encore dit, le plus grand spécialiste de ces questions est mon collègue Yann Potin, qui travaille sur la question des archives. Et il faut rappeler qu'autour de 1800, parallèlement à tout le mouvement de appropriation des patrimoines artistiques de l'étranger, a lieu aussi une appropriation des archives, notamment des archives du Vatican, des archives des Habsbourg, de Vienne, des archives espagnoles. Yann Potin a consacré de nombreux travaux à cette question. Ici, par exemple, en podcast que vous pouvez écouter sur Internet, les archives comme tribu impériale, confiscation et centralisation des archives européennes à Paris, 1807-1815. Donc Napoléon et ses archivistes avaient le projet de construire, d'élaborer un très grand palais des archives qui aurait été à peu près à l'emplacement de l'actuelle Tour Eiffel, où aurait été réunie toute la mémoire de l'Europe, avec des arrière-pensées, y compris financières, puisque quand on aurait eu besoin d'une copie d'un acte de propriété, c'était l'une des idées, outre le fait symbolique de réunir la mémoire de l'Europe, les pays qui auraient demandé des copies auraient dû payer une taxe pour avoir la copie, ce qui aurait été une source de revenus, mais ce projet n'a pas pu, enfin le bâtiment n'a pas pu être édifié. Les archives sont arrivées et ont été classées en France. Je vous recommande l'écoute de cette conférence extrêmement intéressante. Donc la question des archives est évoquée et traitée dans ce premier traité de Paris, mais c'est tout. On n'y voit pas évoquer les œuvres d'art, et pour cause, vous vous souviendrez qu'il y avait en 1814 cette clause secrète orale qui avait permis à certains États allemands notamment de récupérer certaines œuvres d'art, ce qu'on avait dit à l'époque, sous le radar, hein, sans que ni les populations ni les administrations ne s'en aperçoivent trop. C'était un accord conclu avec Louis XVIII, et donc pas de traces ici dans ce traité. Si on regarde l'excellent article que Gilles Pécou avait consacré à ces questions des restitutions de 1814-1815 dans le non moins excellent volume d'actes de colloque consacré à Dominique Vivant-Denon et dirigé par Daniela Gallo en 99, si on regarde cet article-là, on constate, Gilles Pécou qui est historien, notamment de l'Italie et aussi de ces années 1800, il constate dans son article que dans l'environnement politique et diplomatique confus des années 1814-1815, force est de constater que les conquêtes artistiques de l'Empire ne constituent qu'un souci mineur pour la diplomatie et n'apparaissent dans aucun règlement international. Donc nous avons constaté que ce n'était pas un souci mineur pour les opinions publiques. Cette question culturelle occupe beaucoup les esprits, mais si on la compare à la somme d'autres questions juridiques qui se posent, de délimitation territoriale, de richesse numéraire, de déplacement d'archives, ce sujet paraît mineur si on s'en tient aux actes juridiques. Il ajoute, si rien n'en est dit dans le premier traité de Paris, le Congrès de Vienne n'évoque jamais directement la question. Et on cherche en vain dans les 2800 télégrammes et courriers rassemblés par le commandant Veil en 1916-1917 quelque allusion au Louvre, à Denon ou aux conquêtes artistiques de guerre. Donc, non seulement en 1814, il n'en est pas question, mais dans l'acte fondateur, dans les papiers du Congrès de Vienne, on ne trouve pas non plus de traces de nos questions d'œuvres d'art. Et il finit, tout aussi vaine se révèle la quête à la lecture de l'acte final du Congrès de Vienne qui résume les principaux débats. Et en effet, si on consulte l'acte du Congrès de Vienne tel qu'il a été publié dans son édition officielle que vous voyez ici, avec ses annexes, on ne trouve rien sur les œuvres d'art. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question juridique et où est-ce qu'elle a été fixée, où les choses ont-elles été discutées? C'est la question qui nous occupe et qui nous occupe d'abord du point de vue de ceux qui sont opposés aux restitutions et qui vont soumettre des arguments juridiques pour considérer que les reprises des alliés sont injustes et illégales. J'ai quand même tenté de trouver quelques illustrations pour reprendre souffle avant de se replonger dans certains textes. Vous voyez dans cette autre caricature de mai 1814 de Cruikshank, dont nous avons déjà fait connaissance la dernière fois, une représentation donc caricaturale du Louvre sur le perron duquel se trouve Louis XVIII, le roi qui vient d'être restauré, en pleine discussion avec Talleyrand, et il lui dit « Cher Tally, s'il te plaît, convainc ceux-là de nous laisser quelques petites choses qui pourront faire plaisir à ma chambre. » Et puis Talleyrand répond « J'ai vraiment tout essayé, mais il n'y a rien à faire, on n'arrive rien à retenir. » On voit ici Denon avec un bras cassé, comme s'il était lui-même une statue antique qui dit « Ne partez pas, restez ici, on est trop triste, on veut bien vous garder, on est trop triste d'avoir été forcé à vous rendre. » Et puis, l'événement majeur, visuel majeur sur cette caricature, c'est le départ d'Apollon, du char d'Apollon et des muses qui sont en train de quitter Paris. Donc une muse, les muses avec celle-ci surmontée de Cupidon, celle-ci avec ses attributs de peinture, Hercule les suit derrière, donc des figures antiques mais qui sont personnalisées, vivantes, qui partent de leur propre gré, de même, souvenez-vous qu'on avait entendu dire en 1794 que Rubens, Cryer, etc. volaient en masse ou arrivaient en masse pour enrichir les musées, ici les œuvres partent en masse, ici Blücher surmonte les chevaux qui pourraient être les chevaux de Saint-Marc, tandis que Wellington, le vainqueur de Waterloo, surmonte un lion qui pourrait être aussi le lion de Saint-Marc à Venise, et il indique, on va y revenir tout de suite, à son collègue, « Allez, dépêchons-nous de repartir sur la queue du tigre qui est ici décalée à cause d'un montage malheureux que j'ai fait. » Il est écrit « Saint-Marc ». Alors, ce qui m'intéresse le plus ici, pour nous, pour la préoccupation que nous avons, c'est ces chariots qui quittent aussi Paris et qui sont marqués du nom des pays, Hollande, Italie, je ne vois pas Venise, Berlin, et puis ici, derrière l'arbre, Vienne, d'une part, et d'autre part, cette indication donc, de Blücher, de Wellington, devant, qui dit à son comparse Blücher derrière lui, « Viens Blücher, dépêchons-nous de rapporter ces œuvres volées, stolen goods, donc des œuvres volées, c'est le terme utilisé ici, et par ailleurs, nous avons derrière un général ou un officier qui déclare « every man his own », c'est-à-dire à chacun ce qui lui appartient, à chacun sa propriété, ce qui lui appartient, « own » étant ce qui vous est propre. J'y reviendrai tout à l'heure. La question, en fait, dans cette caricature est fixée donc aussi une question juridique, en quelque sorte. Ces œuvres sont considérées comme volées, donc elles n'ont pas fait l'objet de traités, il n'y a pas eu de régularité de leur départ, comme nous le dit ici Wellington, et d'autre part, est posée la question de la propriété ou de la possession, le lien entre possession et propriété étant quelque chose de juridiquement important. Alors, en français, c'est difficile de faire la différence parce que les termes sont très proches, c'est plus facile en allemand. La possession, ce qu'on dit en allemand « Besitz », c'est ça, c'est ce sur quoi on est assis, cession, Besitz, on est assis sur quelque chose, et la propriété, en allemand Eigentum, ou ownership en anglais, c'est ce qui vous est propre. C'est-à-dire que dans les manuels, on peut vous expliquer que si vous vous faites, des manuels juridiques, si vous vous faites voler votre vélo, l'autre va être en possession de votre vélo, mais vous en restez le propriétaire. En français, je conçois que c'est un petit peu difficile, en allemand ça marche très bien, l'autre est dans le Besitz, il est assis sur votre vélo, et vous continuez de l'avoir dans votre cœur, ce vélo, et continuer à vous être propre. Et ces questions-là sont des questions juridiques, en fait, qui vont être traitées ici et qui nous intéressent considérablement. Alors, quel est en fait le cadre qui règle les spoliations ou les translocations d'œuvres d'art autour de 1800? Si on regarde dans les traités des droits des gens, ce qu'on appelle le droit des gens, qui maintenant s'appelle les droits de l'homme, et qui sont en fait les prémices du droit de la guerre ou du droit international, si on regarde dans les traités des droits des gens de l'époque, et notamment celui de ce Johann Ludwig Klüber, qui est ici francisé en Jean-Louis Klüber, un ouvrage écrit en français, mais publié à Stuttgart en 1819, c'est-à-dire exactement dans la période qui nous intéresse, Klüber étant l'un des pères des droits de l'homme modernes, tels qu'on les considère aujourd'hui. Quand on regarde dans ces ouvrages, on voit d'abord que revient en permanence le terme de moderne. Alors, moderne, ça veut dire qu'à ce moment-là, autour de 1800, la question de est-ce qu'on est une civilisation ou un peuple ou un État archaïque ou moderne, outre le fait que c'est une catégorie, mais est extrêmement importante. Est-ce qu'on est déjà dans l'avenir, on est moderne, ou est-ce qu'on est encore dans un mode ancien? Il nous informe, au paragraphe 253, qui s'intitule « Butin », il nous explique comment peuvent être faits des butins en temps de guerre. Et c'est là qu'on va constater que le butin est autorisé en temps de guerre. Le butin peut être pris comme butin, préda, sur les armées, les vaisseaux de guerre et les armateurs ennemis, de force ouverte ou cachée, tout ce qu'ils possèdent de biens mobiliers. Et il ajoute en point B, aujourd'hui, à l'heure actuelle, 1819 donc, aujourd'hui les monuments publics, les objets littéraires et des beaux-arts, le mobilier dans les châteaux, édifices et jardins appartenant au souverain ou à sa famille, ainsi que les choses servant au culte, sont ordinairement ni détruits ni maltraités. Donc, il y a le droit de prise de guerre, de butin, mais il constate qu'aujourd'hui, dans nos années, début du XIXe siècle, en général, ces choses de l'art et de la culture sont protégées et ne sont pas détruites, pas maltraité. Et il n'évoque pas la question du transfert dans le corps du texte, il l'évoque ici en note C, en 1815, c'est-à-dire à son époque, il écrit ce texte quelques mois plus tard, en 1815, les objets de cette espèce, enlevés par les armées françaises, furent rendus à leurs anciens propriétaires. Donc il constate que ça ne se fait plus, et quand on le fait quand même, comme a pu le faire Napoléon, on rend ces objets, ils ne restent pas aux mains du vainqueur. C'est extrêmement important, c'est le cadre. Donc, les prises de guerre sont autorisées, sont possibles, mais ça ne se fait plus. On reviendra tout à l'heure sur cette question. Ça n'empêche pas les Français au moment des restitutions, et pas seulement les Français d'ailleurs, l'opinion européenne au moment des restitutions de 1814 et 1815, d'argumenter en termes juridiques pour empêcher le départ de Paris de ce qui avait été accumulé à ce moment-là par les armées révolutionnaires et impériale. Donc je reviens sur notre texte d'Hippolyte Mazier Duhaume, qui est inconnu, c'est pourquoi j'ai mis cette petite figure là en style restauration, habillé en costume de la restauration pour lui donner une personnalité, mais on n'en sait pour le moment pas beaucoup sur cet auteur. Son texte, dont j'ai lu le titre tout à l'heure, « Observation d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre, etc. », est une réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Castlereagh sous la date du 23 septembre 1815 et publiée le 18 octobre dans le journal des débats. On est dans un contexte donc d'un auteur français qui répond à un dialogue entre le ministre, enfin l'ambassadeur de Grande-Bretagne, d'Angleterre, enfin en France, Castlereagh, qui venait d'écrire en septembre, le 11 septembre lui-même, une lettre, une note adressée à Wellington, donc au vainqueur, à un militaire, pour lui dire ce qu'il pensait qu'il fallait faire des chefs-d'œuvre français. Il faut bien comprendre ce triangle. Castlereagh écrit un texte extrêmement important sur lequel on reviendra tout à l'heure à Wellington. Wellington, dont nous avons fait connaissance sous forme de médaille dès notre premier cours, Wellington, le vainqueur de Napoléon à Waterloo et qui est à la tête des troupes d'occupation à Paris, reçoit une lettre, donc une sorte de conseil de la part de Castlereagh, et il va y répondre, faire une réponse qui elle-même fait l'objet d'une réponse de notre Hippolyte. Et dans cette réponse bien connue de Wellington, il est dit, c'est une phrase très souvent citée, qui remplace en fait des stipulations juridiques dans les traités. La seule marque qui autorise la restitution, c'est ce passage-là, en fait, puisqu'on n'en trouve pas la trace, comme on l'a vu dans les traités. Il écrit dans ce texte de septembre 1815 les mêmes sentiments, ici en traduction française, mais ça a été publié dès l'origine aussi en traduction française, les mêmes sentiments qui font désirer au peuple français de garder les tableaux et les statues des autres nations doivent faire désirer aux autres nations, maintenant que la victoire est de leur côté, de voir restituer ces objets à leurs légitimes propriétaires. Il est, de plus, à désirer, pour le bonheur de la France et pour celui du monde, qu'on lui fasse sentir que, quelque grand qu'aient pu être ses avantages partiels et temporaires sur une ou plusieurs des puissances de l'Europe, le jour de la restitution doit arriver à la fin. C'est ce texte qui a scandalisé certains, les légalistes, ceux qui étaient contre le départ des œuvres, et c'est pourquoi Hippolyte va répondre à ce texte de Wellington, qui est donc la deuxième étape de Castelrac, qui est la deuxième étape dans un dialogue. Alors, que nous dit Hippolyte et comment Hippolyte Mazier-Duhaume et comment argumente-t-il ? On se plonge un petit peu dans ce texte que vous pouvez consulter sur le merveilleux site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, la plus belle invention de la fin du XXe siècle. Préface. Si cet écrit peut avoir quelques mérites, c'est celui de renfermer des vérités importantes et malheureusement trop méconnues. Et ces vérités importantes, on va le voir, portent sur les catégories de justice, de droit, de possession légitime et de restitution légitime, c'est-à-dire que notre auteur se place d'emblée sur le terrain du droit. Il ajoute, on pourra se convaincre que le Muséum de France ne fut point, comme on l'a dit et dernièrement imprimé, le bien d'autrui. Et c'est ce que disait Wellington, le produit du brigandage, mais une partie ou l'équivalent de contributions exigées à la paix et consenties par les puissances avec lesquelles la nation était en guerre. Donc des contributions consenties, c'est-à-dire des objets cédés dans le cadre d'arrangements militaires, d'amnistie ou de traités. C'est ce qu'il veut nous dire. Il continue, nous prétendons seulement que le droit de la guerre, droit terrible, il est vrai, doit au moins nécessairement légitimer ce qui est conquis par des conventions et des traités, que dans tous les âges et presque dans toutes les guerres, des contributions ont été exigées et qu'elles ont toujours été payées soit en or, soit en argent, pierreries, meubles précieux, statues et tableaux, suivant le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses. Donc le projet indiqué dans cette préface d'Hippolyte Mazier-Duhaume, c'est de montrer que, d'abord, le droit de butin a toujours été un droit militaire, qu'il a été scellé par des traités, que ces traités sont la preuve du consentement pour la cession des prises, d'une part, et d'autre part, ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est qu'il nous dit que ces contributions de guerre peuvent être exigées en or, en argent, etc., statues et tableaux, c'est-à-dire soit en numéraire, soit en œuvre d'art, en bien culturel, selon le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses. Ce qui est sous-entendu là, c'est une discussion qui avait été menée dans les années qui précèdent, c'est que la France, étant à un si haut degré de civilisation, s'approprie spécialement et avec beaucoup de goût des œuvres d'art. Alors qu'en fait, elle pourrait aussi prendre ce qu'elle fait d'ailleurs, simplement de l'argent, etc. Non, le fait de s'approprier des œuvres d'art serait le témoignage de sa supériorité culturelle, en quelque sorte, ou en tout cas de son grand degré de civilisation. Alors, il a raison, Mazier-Duhaume, mais je l'évoquais tout à l'heure, les prises de biens culturels, y compris de biens culturels dans des contextes guerriers, ont existé en Europe, et depuis l'Antiquité, vous le savez, mais elles s'étaient arrêtées en Europe avec la guerre de 30 ans, qui court de 1618 à 1648, donc au milieu du XVIIe siècle, avec comme héroïne de ces grands déplacements et de ces grandes appropriations d'œuvres d'art qui étaient allées notamment de l'Europe centrale, de Prague, et puis des régions qui sont aujourd'hui le long de l'Adriatique, enfin, voilà. Mais surtout de Prague vers Stockholm, c'est ici, vous la reconnaissez, la reine Christine de Suède. Donc, jusque autour de 1640 à peu près, les guerres sont accompagnées de déplacements d'œuvres d'art, de déplacements de patrimoine. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premiers textes juridiques sur le droit de prise, comme celui bien célèbre de Grotius, sont publiés dans ces années-là. Vous voyez ici 1631, ce texte qui a été republié par la suite sous le titre en français « Le droit de prise », le droit de prise qui explique dans quelles conditions les butins peuvent être faits en temps de guerre. Donc, en effet, ce phénomène a existé, mais ce que Mazier Duhaume néglige d'ajouter ici, c'est que depuis cette guerre de 30 ans, ça ne s'était plus fait, parce qu'entre le XVIIe siècle et la fin du XVIIIe, interviennent les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, qui est un moment qui induit une sorte de consensus entre les États d'Europe qu'on ne se prend pas, on ne touche pas aux œuvres d'art des autres. Donc ça s'était arrêté en quelque sorte, et avec la Révolution française, la France, puis Napoléon, remettent à l'ordre du jour une pratique qui avait été considérée comme ne plus correspondre au degré d'évolution ou de civilisation des puissances européennes. Il passe là-dessus et nous dit donc qu'il y a toujours eu des spoliations. Le Muséum de Paris fut le fruit de la victoire, d'échanges légitimes, de trésors prodigués, de compensations pacifiques et de possessions nationales, concédées par des traités, conservées par des capitulations. Il devait être nécessairement la propriété la plus inviolable. Donc toute sa démarche consiste à prouver que juridiquement, on n'avait pas le droit en 1815, les alliés n'avaient pas le droit de toucher le Louvre. Pour appuyer sa thèse, selon laquelle tout ça était légitimement arrivé à Paris, il va faire une sorte de typologie des modes d'appropriation et il les décrit. Je vous épargne la lecture complète, mais je lis simplement les débuts de paragraphe. En effet, possesseur reconnu de la Belgique, des bords du Rhin et de l'Italie, par toutes les puissances de l'Europe, exerçant le droit de souveraineté dans ces divers pays, le gouvernement français, donc le gouvernement, qui avait des musées à Rome, à Milan, à Florence, à Turin, avait, pour compléter les collections, fait passer en échange des tableaux de l'école française dans ces différentes capitales, tableaux destinés à remplacer ceux que l'on nous cédait pour embellir les musées de la métropole. La construction est un petit peu tordue. Il nous explique que on, c'est-à-dire les puissances italiennes, là, Milan, Florence, Turin, cédait des œuvres pour embellir le musée de la métropole et qu'en échange, Paris a envoyé des œuvres dans les musées de Milan, Florence, Turin, etc. Ce qui est vrai, simplement, ce n'est pas le même type d'œuvres qui circulent. Il est difficile de comparer, par exemple, des Corrèges, des Raphaël, des tableaux du Corrège, de Raphaël, etc., qui arrivent en France en échange, par exemple, de tableaux de l'école moderne française qui sont envoyés en échange. En tout cas, le motif de l'échange lui paraît assez fort pour considérer que les œuvres arrivées dans ces conditions doivent rester à Paris. Non seulement le musée de Paris s'était formé par des échanges, mais encore par des acquisitions à prix d'argent. De ce nombre sont les statues de la Villa Borghese, qui ne peuvent être disputées à la France puisqu'elles ont été payées au poids de l'or, puisqu'on ne revient point sur un marché conclu et sur lequel on a touché. Et en effet, ces acquisitions-là vont demeurer en France. Le gladiateur Borghese et l'Hadès Borghese, par exemple, pour ne citer qu'eux, sont toujours au Louvre aujourd'hui. Ces acquisitions avaient été menées en 1807-1808, lorsque la famille Borghese s'était trouvée dans de grandes difficultés financières, de par l'occupation de l'Italie. Une autre partie du muséum avait été assurée à la nation, et c'était sans doute la plus intéressante, et on est là au cœur de son propos, par des armistices suivis de traités contractés avec les souverains d'Italie. Donc des armistices et des traités. Et puis il se met sur plusieurs pages à citer les armistices et les traités dont il est question, et notamment, je cite, pour en avoir cité un autre armistice du 20 Floréal en 4, entre la République française et le duc de Parme et de Plaisance contenait cette disposition, deux points citation, qu'il serait aussi remis 20 tableaux au choix du général en chef, c'est-à-dire Bonaparte, parmi ceux existants dans le duché. Cet article fut consolidé par l'article 5 du traité de paix entre la République et le même souverain, etc. Donc, il retourne sur ces traités d'armistice ou de paix et retrouve la trace de cession qu'il considère donc, puisque ça a été cédé par un traité, comme la propriété de la France. D'ailleurs, il considère que tout le monde était d'accord avec ces cessions, même le pape. On reviendra tout à l'heure sur le traité de Tolentino qui a obligé le pape à céder ses œuvres. Et il nous décrit, ça c'était une formule et une anecdote qu'on retrouve vraiment très souvent dans ces questions de spoliation, il nous décrit combien le pape en fait est d'accord avec la situation et, puisque tout ça est légal, n'y voit pas d'inconvénient. Je puis garantir le fait suivant. Le pape visitait le musée, donc le musée Napoléon, le musée du Louvre, sur l'observation qui lui fut faite que certains objets qu'il y voyait pouvaient lui déplaire, peut-être ceux de sa collection saisis à Rome, le Saint-Père répondit au savant qui l'accompagnait, aussi connu par ses talents, son immense érudition que par sa délicatesse dans les procédés, « Ces objets ont toujours suivi la victoire, il est tout simple qu'ils soient ici. » Il continue sur quelques pages sur la question du pape, qui est la question la plus centrale dans ces discussions, nous verrons tout à l'heure pourquoi. « Tout en avouant les torts subséquents du gouvernement français à l'égard du pape, nous ne voyons pas qu'une brouillerie, une querelle, une vexation même, allusion aux difficultés entre le pape et Napoléon, puisse jamais anéantir un traité signé, conclu, ratifié. » Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte psychologique, si on veut, ou diplomatique, un traité est un traité et on ne peut pas revenir en arrière de son point de vue. Et il finit sur cette conclusion. Tout, donc, les objets d'art cédés par les armistices et traités de Parme, de Modène, de Paris, de Bologne et de Tolentino devaient appartenir et demeurer à la France. C'est le point de vue d'un interlocuteur ou de quelqu'un qui se consacre à ces questions juridiques autour de 1815, au moment même des départs des œuvres, des reprises. Et quand on suit l'histoire, l'historiographie, l'histoire du droit au XIXe siècle sur ces questions, jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme l'a fait Xavier Perrault, et à vrai dire jusqu'à aujourd'hui, si on tire encore cette histoire, cet argument selon lequel on ne peut pas défaire un traité et que ces traités ont été défaits par la force, et sans être appuyé par des traités, ni le traité de Paris, ni le traité de Vienne, ni lors du congrès de Vienne. Cet avis, on le retrouve donc à la fin du XIXe siècle, notamment sous la plume de Paul Pradier Faudéré, qui est l'un des grands juristes de droit international. Dans son traité de droit international public européen et américain, il a d'ailleurs travaillé ou cofondé une faculté à Lima, avant sa mort en 1904. Donc ce Pradier Faudéré, à la fin du XIXe siècle, reprend, appuie, alimente cette idée légaliste selon laquelle les traités devaient garantir le maintien des œuvres à Paris. Il écrit en 1800, à la fin, donc dans le dernier quart du XIXe siècle, « Si les alliés voulaient dépouiller la France, ils devaient y procéder diplomatiquement par la voie des traités. » Or, vous vous souvenez, on a bien vu que ces traités ne font pas mention des œuvres d'art. Donc là, il y aurait eu vice de forme, en tout cas, une sorte de vice de forme juridique. Pour enlever à cette puissance, la France, les œuvres d'art, les livres, les manuscrits qu'elle avait acquis en vertu de conventions, des conventions nouvelles, était nécessaire afin d'annuler le droit que les premières avaient fait naître. Donc, dit-il, il aurait fallu, pour annuler les traités cités précédemment avec l'Italie, avec l'Italie point, c'est les seuls traités qui existent, on y reviendra dans un instant, il fallait faire des contre-traités en quelque sorte. Et parce que ces contre-traités n'ont pas été établis en 1814 et 1815, il considère qu'il y a eu donc vice, et cette considération va nous poursuivre pendant toutes les guerres, notamment entre la France et l'Allemagne, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui remonte tout le temps, du côté français. Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, donc il fait une distinction entre ce qui avait été acquis en vertu des conventions, c'est-à-dire par le droit de guerre, et ce qui avait été pris, c'est-à-dire les simples butins, les prises de guerre qui n'avaient pas été scellés par des traités. Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, une convention, un traité, était non moins indispensable pour déterminer les objets à restituer et pour donner à cette revanche de la force la consécration du droit conventionnel. Donc, il constate qu'il n'y a pas eu acte de droit et donc que la reprise par les Alliés en 1815 est illégale, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. La question qui est liée à tout ce qui nous occupe depuis tout à l'heure est donc bien celle, non pas de l'origine territoriale ou géographique des œuvres. Vous vous souvenez, sur la première caricature de Cruikshank, on voyait les chariots retournés vers l'Italie, la Hollande, Venise, Berlin, Vienne, c'est-à-dire c'est leur lieu d'origine, leur territoire d'origine. La question qui se pose ici n'est pas celle de leur lieu d'origine, de leur contexte d'origine, mais celle de leur origine juridique. Ont-ils été pris dans le cadre de guerres qui ont donné lieu à des armistices et des traités ou pas? Et cette question est extrêmement intéressante puisque, en effet, si on regarde la chronologie des saisies avant les restitutions, on voit qu'il y a un grand nombre, une grande multiplicité d'origines juridiques des prises. Les questions que ça soulève, c'est celle non seulement donc des titres juridiques de l'appropriation, est-ce qu'il y a eu traité, est-ce qu'il y a eu convention, est-ce qu'il y a eu quelque chose pour dire qu'on s'appropriait ces œuvres, mais aussi, qui est liée à cette question, celle du consentement ou d'un éventuel vice de consentement au moment de la prise, est-ce que ceux qui ont été dépouillés de leur collection étaient d'accord et l'auraient signé, contresigné ou pas? Et troisièmement, question un peu adjacente, qui était en fait, quels sont les titres de propriété à l'origine? Qui a été privé de sa propriété? Est-ce que ce sont des congrégations religieuses? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que, donc une municipalité? Est-ce que c'est un souverain? Ces questions-là vont jouer un rôle considérable après. Alors donc, ce n'est pas le lieu d'origine. Vous voyez ici le départ de Rome, le départ de Rome des œuvres, des convois pris à la suite du traité de Tolentino, et on voit Rome dans le fond et ses convois de nombreuses œuvres d'art qui sont en train de rejoindre la République française. Ce n'est pas la question du lieu qui intéresse les juristes. Vous voyez ici, pour évoquer encore cette question du lieu, l'arrivée à Paris dans la cour du Louvre des pièces saisies chez le roi de Prusse en 1806, avec le quadrige de la porte de Berlin, ici, qu'on reconnaît derrière, ou l'adorant de bronze qui avait appartenu à Frédéric le Grand. Donc ce n'est pas cette question, ni la question du lieu, ni en fait la question du caractère naturel de la présence dans tel ou tel contexte culturel et géographique, mais c'est bien la question du titre juridique qui se pose ici. Car quand on est confronté en 1815 au démantèlement du Louvre, et puis je remets cette représentation du Louvre la tête en bas en 1815 pour montrer, pour rappeler qu'on est au moment de son démantèlement, cette année 1815, au moment du règlement des saisies, est une année qui doit prendre en compte presque une vingtaine ou deux décennies convois de saisies qui se sont toutes, entre 1794 et 1813, produites dans des circonstances juridiques différentes. C'est ça que j'appelle la provenance ou l'origine juridique des œuvres. Alors, pour expliciter un tout petit peu mon propos, et sans revenir sur l'histoire des saisies en général, dont j'avais traité dans mon cours précédent l'année dernière, je vous redonne quelques exemples pour vous montrer la complexité de la provenance juridique des pièces lors des deux décennies de saisie révolutionnaire et impériale. Tout ça commence, comme vous le savez, après la bataille de Fleurus en 1794, lorsque les armées françaises peuvent passer outre les frontières jusqu'alors dessinées de la France et, par le biais de commissions, s'approprier un certain nombre d'objets, donc dans des pays, dans des régions conquises. Ce type d'objets, ce sont soit comme cette descente de croix, la partie centrale du triptyque de Rubens pris dans la cathédrale Notre-Dame d'Anvers en Belgique, donc soit des œuvres prises dans des contextes religieux, dans des églises qui passent à Paris, soit des pièces architecturales également saisies dans des églises, comme les colonnes, les fameuses colonnes saisies dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, saisies, c'est-à-dire décellées et transportées à Paris, en 1794. Donc on peut dire que c'est un patrimoine architectural dont le propriétaire est l'église ici d'Aix-la-Chapelle, ou alors un grand nombre de dessins et d'imprimés saisis dans des collections des jésuites. Alors les jésuites avaient été interdits autour de 1770 et leur collection était devenue dans les régions rhénanes des collections publiques. Ici on voit quelques dessins pris dans les collections des ex-jésuites, comme on les appelle à l'époque, de Cologne. Donc ce sont des collections qui ont été en quelque sorte récupérées par les municipalités, mais qui avaient eu auparavant une histoire religieuse ou qui avaient été formées par des religieux. Des pièces, y compris des animaux vivants, tirées de collections comme celle du Statuder des Pays-Bas, c'est-à-dire du gouverneur des Pays-Bas, donc cet éléphant, et d'autres pièces tirées de ces collections qui appartiennent à des souverains. Pour l'anecdote, et parce qu'on est dans une séance un peu difficile, si vous allez au musée d'histoire naturelle de Bourges, vous trouverez cet éléphant, Hans, l'éléphant, donc celui-ci que je viens de vous montrer, qui est venu à pied de La Haye, qui appartenait, donc son titre de propriété, c'est qu'il appartenait au jardin zoologique du gouverneur. Hans l'éléphant, le spécimen d'éléphant naturalisé du muséum de Bourges, n'est rien de moins que, un, la plus ancienne naturalisation d'éléphants encore existante en France, et surtout le fameux Hans, le mâle d'un couple confisqué à la Hollande en 1795, et qui fit grande sensation à la ménagerie du jardin des plantes. Vous avez toute l'histoire de Hans un peu plus bas, si vous voulez aller la voir avec vos enfants ou vos petits-enfants. Cet éléphant nous est resté. Le titre, il avait été pris au gouverneur. Il est sans doute mort à Paris. Et il a fait l'objet de cette naturalisation. Dans le contexte italien, c'est-à-dire au moment de la campagne d'Italie de 1796 à 1798, les œuvres qui arrivent, et celles que je vous montre sont simplement des représentantes, mais il faut considérer que nous sommes face à des dizaines et dans le contexte allemand face à des centaines d'œuvres qui circulent. Elles sont tirées comme, par exemple, Saint-Jérôme du Corrège, de l'Académie des Beaux-Arts de Parme, du duc de Parme, donc une propriété ducale, où elle était arrivée au milieu du XVIIIe siècle, elle avait quitté son église pour aller à l'Académie, et de l'Académie, elle est transférée à Paris. On a des pièces qui arrivent directement d'église, comme cette Sainte-Cécile de Raphaël qui vient de San Giovanni di Monte à Bologne, qui est transférée à Paris. On a des pièces issues des collections du public, du musée public du Vatican, donc qui sont la propriété du pape à Rome, comme ce groupe du Laocoon, qui depuis la Renaissance faisait partie des collections pontificales. On a, comme la Transfiguration de Raphaël, des pièces saisies dans des églises de Rome, mais qui n'appartenaient pas au pape, qui appartenaient aux différentes églises, comme cette Transfiguration prise à San Pietro in Montorio à Rome. Donc une multiplicité de titres de propriété initiale, ou même des pièces comme les chevaux de Venise, qui étaient donc montés sur la cathédrale de la place Saint-Marc, qui sont, on pourrait dire, des pièces qui appartiennent au capital urbain de la ville, qui appartiennent à la municipalité, qui font partie du décor. Et en fonction des différents types de propriétés initiales, on peut considérer qu'il y a différents types d'identification des populations à ces patrimoines, selon qu'ils sont visibles ou invisibles, selon qu'ils étaient dans des églises fréquentées ou dans des collections privées, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre ensuite les débats ou pour comprendre les différents degrés de joie ou d'accueil des œuvres quand elles reviennent. Celles qui n'avaient jamais été bien vues avant ne font pas le même effet que celles qui, par exemple, comme les chevaux de Saint-Marc, avaient toujours été visibles, ou le quadrige de la porte de Berlin, visibles dans la ville et qui faisaient partie du patrimoine urbain. Autre configuration, lorsque la France annexe la rive gauche du Rhin, et que ces départements ici, qui étaient autrefois des départements soit allemands, soit qui feront ensuite partie de la Belgique, deviennent des départements français. Là, les saisies ont lieu sous une autre forme juridique, puisque des manuscrits, notamment, qui se trouvaient dans des monastères sécularisés, donc puisque avec l'arrivée de la France, les monastères sont supprimés, et ces manuscrits sont les plus précieux d'entre eux, sont centralisés à Paris, comme ils pourraient être centralisés aussi depuis la Bretagne, le sud de la France, etc. On considère ces départements comme des départements normaux, entre guillemets, français. Et là, on a donc évidemment pas de traité, pas de traité pour marquer ces déplacements, mais une logique nationale à cause de cette occupation et de la transformation de ces régions en corps français, en fait, en département français. En 1800-1801, les prises qui sont opérées en Allemagne du Sud concernent les collections du souverain de Bavière, comme cette bataille d'Alexandre d'Altorfer, transférée de Munich à Paris en 1801, donc collection du souverain, collection publique à Munich, qui était publique à l'époque. En 1806-1808, l'Allemagne du Nord est touchée, et ce qui est touché, c'est à la fois, comme à l'exemple de cette allégorie de la victoire par Rubens venue de la galerie de Kassel, donc viennent soit de musées déjà existants qui appartiennent au Landgrave de Hesse-Kassel, mais qui sont une propriété souveraine mais publique, c'est-à-dire à laquelle le public avait accès depuis longtemps en Europe, ou alors quand ça vient de l'extrême est, ici de Danzig, il peut s'agir de pièces tirées dans d'églises, comme ce tableau de Memling, représentant le jugement dernier, ou encore des pièces tirées de la collection du roi de Prusse. Berlin n'avait pas de musée public, c'est-à-dire tirées directement des châteaux du roi de Prusse, avec un autre type de publicité d'une part et de propriété d'autre part. On peut ajouter, venant de Vienne, les collections de peinture de la galerie de l'Empire d'Autriche, qui est aussi une galerie publique, mais qui appartient à l'Autriche. En Espagne, ce sont des familles qui sont contraintes de céder leurs tableaux en 1808. Et puis, en 1813, Dominique Vivant-Denon va faire un tour d'Italie pour trouver dans des églises encore quelques œuvres de ce qu'il qualifie de primitif, ou qu'on qualifiait à l'époque de primitif, c'est-à-dire les premiers exemples de la peinture, comme ce Saint-François recevant les stigmates de Giotto, qui est pris dans l'église San Francesco de Pise, dans la chapelle Ughi, et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Donc, des provenances juridiques extrêmement différentes. Et dans tout ça, seules les saisies qui ont été pratiquées au nord de l'Italie, et qu'a évoqué notre ami Hippolyte Mazier-Duhaume tout à l'heure, ont fait l'objet de traités. Et le plus important de ces traités, c'est le traité de Tolentino, signé avec le pape en 1797. Vous voyez ici une représentation, une gravure qui représente la signature de ce traité. Traité dont vous voyez ici en mauvaise résolution le manuscrit et le texte du traité de Tolentino qui marque la fin provisoire des campagnes françaises en Italie. Le général en chef Bonaparte, commandant l'armée d'Italie, et le citoyen Cacco, agent de la République française en Italie, chargé des pouvoirs du directoire exécutif, son éminence, etc., sont convenus de ce qui suit. Article 1, il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le pape Pie VI. Et article 13, vers la fin du traité, l'article 8 du traité d'amnistie signé à Bologne concernant les manuscrits et objets d'art aura son exécution entière et la plus prompte possible. C'est-à-dire que le traité de Tolentino ne nomme pas spécialement des œuvres d'art, mais ils disent qu'il y avait ce sur quoi on s'était mis d'accord quelques mois plus tôt à Bologne, dans l'armistice de Bologne, il faut maintenant l'appliquer. Donc il faut revenir en arrière pour trouver cet armistice de Bologne de juin 1796, où en effet l'article 8 stipule que le pape livrera à la République française sans tableaux, bustes, vases ou statues, au choix des commissaires qui seront envoyés à Rome, parmi lesquels ces objets seront notamment compris le buste en bronze de Junius Brutus et celui en marbre de Marcus Brutus, tous les deux placés au Capitole, et 500 manuscrits au choix des 10 commissaires. C'est ça la clause qui va empêcher, dans un premier temps, Canova, en 1814 et 1815, de récupérer ses œuvres. Et c'est là-dessus que vont s'échauffer les juristes en 1815, ou ceux qui argumentent en termes juridiques, les légalistes, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le transport en France des objets d'art cédés par le traité de Tolentino a fait l'objet de nombreuses publications, et vous voyez qu'ici, on parle d'objets d'art cédés, du point de vue français. Ce ne sont pas des objets conquis à Tolentino, ils sont cédés, et on a ici l'idée de cession, et donc de consentement de la dernière partie. Je vous demande un peu de patience, donc pour une dizaine de minutes pour terminer le cours, si vous voulez bien, si notre enveloppe horaire est épuisée. Mais je vous propose néanmoins de regarder quels sont les arguments des partisans des restitutions, les arguments juridiques, et comment, de leur côté, ils argumentent. Alors, le principal texte qui nous intéresse ici, c'est cette fameuse lettre de Castelrag à Wellington de septembre 1815, qui a été publiée à de nombreuses reprises à l'époque et puis republiée par la suite. Vous pouvez la consulter également en ligne, notamment dans ses actes relatifs à la restitution des monuments de l'art en France, publiée de manière bilingue. Et ce qui nous intéresse, c'est la note remise le 11 septembre 1815 par le vicomte Castelrag au ministre des puissances alliées et portée sur leur protocole. C'est donc une lettre, une note, dans laquelle ce diplomate va donner ses arguments pour considérer que malgré les traités, malgré l'existence de traités, il faut que la France restitue les œuvres qu'elle avait prises. Je feuillette jusqu'à la fin directement pour arriver à la conclusion, qui est la suivante. Le principe de la propriété réglée sur les droits des territoires d'où ces chefs-d'œuvre ont été enlevés est le plus sûr et le guide seul vers la justice. Et il n'est rien peut-être qui pût contribuer davantage à tranquilliser l'esprit public d'Europe aujourd'hui qu'un tel hommage rendu par le roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix. On voit bien qu'il n'est pas question de traité. Son discours se place sur un autre plan. Il ne se pose pas sur le plan juridique du droit de la guerre, mais celui du droit international, du droit des hommes, en quelque sorte, donc sur un plan moral. Il considère que ce qui compte, ce ne sont pas les traités, mais le principe de la propriété réglé sur les droits des territoires d'où les chefs-d'œuvre ont été pris. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est la propriété, l'origine, non pas juridique au sens du mode d'acquisition, mais le titre de propriété qui lie à la question des territoires. D'où viennent les œuvres, c'est ça qui compte, et il considère que c'est seulement en considérant ces pièces selon leur origine qu'on peut arriver à un équilibre de justice, d'une part, et d'apaisement des esprits en Europe, d'autre part, avec ses arguments très forts, des principes de vertu, de conciliation et de paix. Alors là, évidemment, on a sauté une quinzaine de pages qui nous permettent d'arriver à cette conclusion. Je vous montre quelques extraits, trois extraits intéressants de ce texte qui mènent le lecteur sur plusieurs pistes qu'on ne peut pas approfondir malheureusement aujourd'hui, mais qui nous montrent combien cette discussion sur les droits de l'homme liés au droit à la culture sont liés dès ces années 1815. En appliquant un remède à ce mal provoquant, il ne parvoit pas qu'on puisse prendre aucun parti mitoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnaître une multitude de spoliations sous le couvert des traités, plus choquantes s'il est possible, par leur caractère que les actes de rapine manifestes par lesquels ces restes ont été en général rassemblés. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il considère que les traités sont presque plus choquants que les spoliations pures et dures, en quelque sorte, puisqu'il y a un scandale à forcer un État vaincu à céder des œuvres d'art, une pratique qui avait été arrêtée depuis plusieurs centaines d'années. Autre passage, ces dépouilles, c'est-à-dire les œuvres d'art réunies à Paris, ces dépouilles qui empêchent une réconciliation morale entre la France et les pays qu'elle a envahis, ne sont pas nécessaires pour rappeler les exploits de ces armées, lesquelles, malgré la cause dans laquelle ils ont été accomplis, doivent à jamais faire respecter les armes de la nation au dehors. Mais tant que ces objets resteront dans Paris, constituant pour ainsi dire les actes et titres des pays qui ont été abandonnés, les idées de réunir encore ces pays à la France ne seront jamais entièrement éteintes. L'idée ici, c'est que si on laisse ces œuvres d'art des pays anciennement soumis, si on les laisse à Paris, la France ne pourra pas, et les autres ne pourront pas se réconcilier avec la France parce que ces objets seront en fait comme des messagers d'un État qui doit faire désirer à la France, dit-il, d'un jour reprendre aussi les pays. Donc, quand on garde leurs œuvres, ça veut dire qu'en quelque sorte, on n'a pas perdu l'espoir de garder les États qui vont avec, ici, l'argument de Castelrag. Et le génie du peuple François ne s'associera jamais complètement à l'existence plus limitée qui est assignée à la nation sous les Bourbons. C'est-à-dire qu'il faut lui enlever les œuvres d'art à la France pour qu'elle comprenne qu'elle est réduite maintenant. Alors que si on lui laisse les œuvres d'art, elle va continuer de penser que toute l'Europe lui appartient. Je passe celle-ci. Pour faire ce saut jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour voir comment ce type d'argument donc moraux sur la justice, l'équité ont été développés. Ils ont été développés en particulier par les juristes qui s'occupent donc du droit international, les internationalistes, comme on dit, des droits de l'homme, notamment Carlos Calvo, qui était un juriste extrêmement, qui a été un des théoriciens des droits de l'homme et du patrimoine culturel à la fin du XIXe siècle, qui note avec d'autres, et j'ai pris un résumé de leur position dans l'article de Xavier Perrault que j'ai cité au début, il écrit « C'est sur ce fondement, sur ce type de fondement, tel que ceux qu'on vient de présenter, que Carlos Calvo, Travers Twiss ou encore Jean-Gaspard Blunschli et Achille Morin approuvent les restitutions de 1815. Ainsi, si Blunschli veut bien convenir du fait qu'après les 100 jours, le changement de propriété n'a pas été sanctionné par les traités, il considère toutefois comme un progrès humanitaire la décision, peut-être égoïste, prise en 1815 par les Alliés, d'obliger le gouvernement français à restituer ses chefs-d'œuvre aux divers pays qui les avaient produits. Donc ici, la restitution, même si elle n'est pas fixée par un traité et même si elle va contre des traités préexistants, est considérée tout au long du XIXe siècle et dans une ligne qui va continuer jusqu'à l'heure actuelle comme un progrès humanitaire, c'est-à-dire de ne pas regarder quel a été le cadre juridique, quelles ont été les lois qui ont permis ces déplacements, mais que le progrès humanitaire, c'est de restituer. Dans le même sens, Calvo, je poursuis la citation, voit dans les restitutions une mesure d'équité. Donc, on voit bien, suivi en cela par Travers Twiss, etc., et puis l'article que je vous recommande de lire continue en expliquant comment tout cela va jusqu'à la Convention de La Haye et les conventions de protection du patrimoine du XXe siècle. Ce sont les prémices ici, et on voit que ces prémices remontent à l'épisode de 1815. Voilà, on finit avec 7 minutes de retard, et la séance prochaine sera intitulée « À qui rendre ?» et nous serons principalement en Belgique. Je vous remercie.